Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a un message qui est très délicat et sensible, mais aussi très important. Et donc le sujet qu'on traite aujourd'hui s'appelle l'alcool dans la famille. L'alcool dans la famille. Donc tournez à l'autre côté de la Bible parce qu'on était dans l'Apocalypse. Maintenant tournez dans la Genèse. Genèse chapitre 6, on va voir, en fait, on va voir plusieurs versets. Genèse chapitre 6, verset 1. Lorsque les hommes eurent... Ah, c'est pas ce verset-là. Attendez, c'est verset 8. Excusez-moi. Genèse chapitre 6 et verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est là que je voulais commencer. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis, dans le deuxième épître de Pierre, restez dans la Genèse, chapitre, on va dire chapitre 9, mais on retourne aussi vers la fin de la Bible à 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2 et le verset 5. Dieu, en parlant du déluge, il dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Et c'est ça la phrase que je veux souligner. Ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. D'accord? Donc, dans Genèse chapitre 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Noé était, selon 2 Pierre chapitre 2, verset 5, un prédicateur de la justice. Donc, c'est bon jusqu'à là, n'est-ce pas? Hein? On apprend que Noé avait 600 ans à cette époque-là. Il était vieux. 600 ans. Et donc, regardez chapitre 9, Genèse chapitre 9 et verset 1. Après le déluge, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu bénit Noé et ses fils et le dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Donc encore, il n'y a pas de problème, c'est assez bien. Il faut savoir que, comment on a traité ça un peu la dernière fois, il y avait Noé et ses trois fils et donc leurs quatre femmes. Mais Noé avait des frères et des sœurs. Ses enfants avaient de nombreuses cousins, cousines. Il y avait les oncles et les tantes. Il y avait des autres patriarches. Qui sont la grande partie de ces gens-là morts dans le déluge? Ce sont des gens qui auraient dû connaître Dieu, mais qui étaient, comme on a vu dans le tout à l'heure, ils étaient des terriens. C'était des gens qui étaient de la terre, qui ne souhaitaient pas plus que de se faire plaisir dans cette vie. Et comme on a vu dans le Genèse chapitre 6, il y avait donc cette désregard, je crois que c'est le mot, désregard pour Dieu. Les gens ne s'occupaient plus de Dieu. Il y avait très répandu donc l'immoralité, au point de dire amoralité, et il y avait de la violence, beaucoup de violence, le sang et le meurtre et tout qui se passait à cette époque-là, au point où Dieu était dégoûté de l'humanité qu'il avait créée, et donc il a décidé de choisir un homme, donc Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais les fils de Noé, et Noé lui-même, ils ont vécu ce monde ancien, ils ont eu des influences. Et bien que le déluge a tué toutes les personnes et tous les animaux, etc., qui n'étaient pas dans l'arche, ils ont quand même gardé les connaissances de ce qui s'est passé auparavant. Là, Dieu n'a pas changé ça. Et donc, regardez maintenant dans chapitre 9 et verset 20. Verset 20 au 29. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu étend les possessions de Japhet, qu'il habite dans les temps de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Alors, je vais vous dire, c'est un texte qui est difficile. Donc, on recommence au début. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Mon grand-père buvait une bière de temps en temps. Un jour, quand j'avais aux environs de, 17-18 ans, il était à la pizzeria et il a rencontré un copain de l'école primaire. Et donc, il avait déjà 70-75 ans. Alors, quand on trouve quelqu'un d'autre qui est encore vivant, de sa jeunesse, ça veut fêter. Hein? Ça veut se fêter. Donc, ensemble, ils discutaient longtemps et ils buvaient lentement de la bière. Puis, mon grand-père est parti et en rentrant à la maison, dans sa nouvelle voiture, il a eu un accident. Il s'est trouvé dans la fosse. Bon, c'était pas trop grave. Hein? La voiture était un peu abîmée, l'orgueil était bien blessé, mais il n'y avait rien vraiment de méchant. Mais le point, c'est que il avait une habitude rarement de boire la bière. C'était un plaisir de temps en temps. Mais ce jour-là, il ne faisait pas attention. Il ne faisait pas attention. Parce qu'il discutait avec l'autre personne. Et puis, ils ont, aux États-Unis, on peut avoir le pitcher. Hein? Pitcher. Donc, ils ont bu, je ne sais plus, je crois que c'était deux ensemble. Bah, c'était trop. Donc, vous savez, certainement, qu'environ 40% des accidents mortels de la route sont reliés à l'alcool. Vous le savez probablement. Hein? Ceci ne prend pas en compte des personnes, et on vous le dit presque jamais, cette partie-là, les personnes handicapées, veuves, orphelins, etc., qui survivent. Hein? En plus des 40%, des accidents mortels, il y a aussi une grande misère humaine de ceux qui sont handicapés, des femmes qui n'ont plus de mari, des enfants qui n'ont plus de parents, etc. Tout cela à cause de l'alcool. Et le texte nous dit que Noé, il but du vin, s'enivra, et s'est découvert au milieu de sa tente. Alors, dans le commentaire que j'ai de M. Unger, qui était un grand érudit et archéologue, il dit, en fait, la phrase doit se lire, Noé buvait, s'enivrait, il buvait et s'enivrait de son vin. Il buvait et s'enivrait de son vin. Donc, la Bible, en fait, dit, on va regarder dans Éphésiens, on va laisser la Bible le dire, Éphésiens chapitre 5, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 5, et le verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Donc on a une interdiction biblique pour être ivre. Il ne faut pas que le chrétien s'enivre, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir, ben, c'est quoi la débauche? Parce que ça aide à savoir. Être enivré, être ivre, c'est de la débauche, mais c'est quoi? Donc, le dictionnaire dit, c'est une mauvaise conduite. Et donc, j'ai voulu savoir aussi dans le grec, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire plus profondément dans le grec. Et c'est un mot qui veut dire un peu comme incorrigible ou sans délivrance. C'est une, on se met dans une situation d'où on ne peut pas se délivrer. Dans le dictionnaire, donc en français, il a été marqué « débauche » signifie « excès condamnable dans la jouissance des plaisirs sensuels, pas obligatoirement sexuels, mais les sens de touche, de goût, de tout ce qui est humain. » Donc c'est un excès condamnable, c'est une mauvaise conduite, c'est une façon inacceptable de vivre. Et quand on lit ce texte-là en Éphésiens chapitre 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. On voit qu'il y a une opposition qui est posée. Soit on peut être sous le contrôle de l'alcool, ou bien on peut être sous le contrôle de Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Alors, savoir que dans la Bible, la question des drogues, parce que à savoir que l'alcool est une drogue. À savoir que la question des drogues se traite avec la question d'alcool. On peut se demander, mais pourquoi les chrétiens ne prennent pas de héroïne, ou ne fument pas de marijuana, ou ne font pas toutes ces autres choses comme ça? Donc, peut-être que vous ne vous êtes jamais posé cette question. Mais vous avez du mal à trouver une interdiction biblique pour ces produits-là. Pour une chose, la plupart de ces produits n'existaient pas. Hein? Donc, surtout pas en Israël. Mais l'idée de l'interdiction, pourquoi les gouvernements sont contre ces choses-là, quand les chrétiens sont peut-être pour ces choses-là? Ah ben non, les chrétiens ne sont pas pour ces choses-là. Mais la Bible traite ces sujets avec la question d'alcool. Parce que le mot, on dit alcool, alcool est une drogue. Une drogue. Alcool est une drogue. Et en fait, c'est une drogue toxique. Donc, c'est un poison, et c'est ça le gouvernement qui le dit. Donc, on dirait peut-être que moi, je peux boire l'alcool sans que l'alcool m'influence. Hein? D'ailleurs, j'étais dans une situation très bizarre quand Sophie et moi sont arrivés après qu'on avait parti, on est parti de messe. Et on est retourné aux États-Unis, on est rentré en France, on n'avait pas un endroit pour vivre, donc quelqu'un nous a reçus dans leur maison, dans la région lyonnaise. Et justement, ça arrive que cette personne avait deux caves, et c'était un chrétien. Okay? Donc, il avait besoin de l'aide, donc il a employé son beau-frère de l'Angleterre pour travailler avec lui. Et on n'a jamais rien dit. Moi, j'ai une position personnelle là-dessus. Je n'ai rien dit. Mais ça les offensait que je ne buvais pas leur vin. C'était pas... Moi, je n'ai rien dit, mais je vivais simplement moi-même. Et donc, ils se sont dit, les deux, nous allons prouver qu'on peut boire tout le vin qu'on veut sans être influencé. Voilà. vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. C'est un désir physique impossible. Et donc tous les deux se sont enivrés, petit à petit, sans même le savoir, parce que c'est ça, hein, quand on s'enivre, c'est petit à petit. Leur femme avait honte, et puis le beau-frère anglais, à la fin, il est devenu alcoolique, et puis il a divorcé sa femme et toutes les choses. Hein. Donc c'était un long cheminement. Mais c'est dommage que cet ami chrétien avait ouvert deux caves, donc il avait besoin de l'aide de son beau-frère qui prenait un peu ici et là, et il ne devait pas faire ça, n'est-ce pas? Il devait vendre ça et non pas le boire. Et puis à la fin, donc, il a gâché sa vie. Donc, en fait, le gouvernement répond à cette question. Hein? Quand vous pensez que vous pouvez vivre, boire l'alcool sans être influencé, le gouvernement dit que non. L'alcool est une drogue toxique qui agit en vous dès la première gorgée et que l'influence augmente selon la quantité que vous buvez. Vous le savez tous de toute façon, mais il faut qu'on le dise. Hein? Donc, si vous êtes conducteur de travaux publics, de transport public, vous êtes conducteur de transport public, vous n'avez pas le droit à même un verre. Pourquoi? Parce qu'un verre influence déjà et met à risque toutes ces gens qui sont dans le car. C'est la loi. Hein? Si vous êtes un conducteur de véhicule privé, vous n'avez pas le droit à deux verres. Deux verres. Bon, un verre de quoi? Quand j'étais à Disneyland, j'ai pris une grande verre tasse, enfin, pour le café. C'est comme... On peut mettre peut-être de vodka là-dedans, mais non. Ils ont réglementé cette question des boissons, donc la taille d'une petite tasse. Je ne connais pas les mots exacts. Hein, la petite tasse pour le whisky, OK, a à peu près la même quantité d'alcool qu'un verre de vin. Le vin, il y a plus de liquide. Le whisky a moins de liquide. Mais la taille de la verre, la quantité d'alcool est à peu près la même. Le volume d'alcool dans le verre, donc une bière, n'importe, c'est à peu près la même quantité d'alcool. Et comme ça, on peut vous dire, si vous prenez un verre de bière, ou un verre de vin, ou un verre de whisky, c'est tout. Autrement, vous dépassez les limites légales et vous aurez toutes les conséquences légales et avec vos assurances. Et si vous avez un accident, eh bien, si c'est au-delà d'une certaine limite, vous allez même en prison. Tout ça parce qu'on a dit, je peux boire tout ce que je veux, sans être influencé. Ben non. On est influencé. C'est la réalité. Hein? Dès la première gorgée. Et c'est le gouvernement qui vous le dit. C'est pas moi. C'est le gouvernement qui vous dit ça. Hein? Parce que c'est un grand problème dans la société. Hein? J'ai voulu aussi vous dire deux, trois petits mots concernant le vin dans la Bible. Et je sais qu'en français, c'est un peu, on peut dire vin sans dire alcool. Mais dans ce message, que je dis vin ou que je dis alcool, on parle de ce produit qui est dans la boisson. OK? C'est-à-dire l'alcool. Donc, un petit mot sur le vin qui est dans la Bible, mentionné dans la Bible. Dans la Bible, vous avez ce qui s'appelle un vin naturel dont le taux d'alcool est inconnu. Ça va jusqu'à là? Au début, on dit le vin nouveau, donc on vient de le presser, et donc il n'y a point d'alcool. On ne risque rien. Quand il n'y a pas d'alcool, on ne risque rien. Et donc, par la suite, petit à petit, le vin nouveau se fermente et l'alcool se produit. La consommation biologique des sucres, tout ça, et les produits qui sont produits, ça s'appelle l'alcool. Et donc, quand la présence de l'alcool était évidente, on parle du croyant de l'Ancien Testament ou Nouveau Testament, quand la présence de l'alcool était évidente, on ne buvait plus. Parce qu'on disait que c'était une boisson forte, une boisson forte, ça voulait dire une boisson alcoolisée. On est sûr. Et c'est pour ça que dans Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23 et verset 31, nous lisons, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc là, on voit que quand on parle d'une boisson alcoolisée, la Bible a une optique. Donc, avant, hein, parce que c'est pas tout de suite qu'on peut dire, voilà, c'est une boisson alcoolisée. On dit pas tout de suite, c'est une boisson forte. Et donc, entre le temps que c'est un vin nouveau et le temps qu'on va dire, ah, voilà, on est sûr que c'est alcoolisé maintenant, entre-temps, donc, on coupe le vin avec de l'eau pour diminuer les effets, pour diminuer le risque. Hein? Alors, donc, on peut demander, mais pourquoi Dieu a permis donc l'existence d'alcool, si ça peut être mauvais? Hein? Pourquoi? Eh bien, c'est justement parce que l'alcool a une utilité. L'alcool a une utilité médicale. Et pendant la plupart de l'histoire de l'humanité, il n'y a pas d'anesthésie, par exemple. C'est tout récent, l'anesthésie. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait auparavant? Il y avait l'alcool. Hein? Il y avait certaines drogues, des fois. Hein? Mais c'était surtout l'alcool. Aussi, pour stériliser de l'eau, pour que l'eau soit potable, l'alcool est un toxin. Ça tue. Donc, les bactéries sont tuées par l'alcool. Et donc, quand on faisait des grands voyages dans les bateaux, on mettait l'alcool dans l'eau afin de tuer les bactéries pour que l'eau puisse être bu. Autrement, on avait toutes ces autres maladies. Voyez? Donc, il y a l'utilité. Aussi, on peut dire, mais Jésus a fait le vin à Cana. Voilà. C'est ce qu'on dit. Mais je voudrais vous dire, on peut approfondir si vous voulez. Mais à Cana, le vin était certainement un vin nouveau, étant une œuvre créatrice de la main du Seigneur. Si vous réfléchissez, vous allez vous souvenir que tout ce qui a rapport avec la mort et la corruption est une suite de péchés. Et Jésus a fait une œuvre créatrice à Cana. Et cette œuvre-là n'était pas corrompue. Il n'y avait pas de fermentation. Ce n'était pas un Beaujolais ou je sais pas quoi, un Bordeaux. C'était un vin nouveau, mais un vin nouveau, le meilleur. Et c'est ça que la personne a dit, ce n'est pas possible. Pourquoi on présente maintenant le meilleur quand c'est la fin de la fête? Donc, ça c'est une certaine chose que je voulais dire rapidement. Noé buvait et s'enivrait de son vin. L'écrivain Lang a dit, ça c'est L-A-N-G-E, il a dit, les vertus et vices des nations ressortent des vertus et vices de la famille. Le vice. Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'est très utile le dictionnaire. Le vice est une disposition habituelle au mal ou une chose qui conduit, une conduite qui en résulte, je veux dire, ou une conduite qui en résulte de cette disposition habituelle vers le mal. Et un vice, donc une distinction entre le vice et un vice est une mauvaise penchant, un défaut que reprouve la morale sociale et la conduite sous l'influence d'alcool est justement un défaut que reprouve la morale sociale, n'est-ce pas? La Bible ne dit jamais que boire du vin, c'est un péché. Elle ne dit jamais. Mais, en même temps, boire l'alcool, donc le vin, ou l'alcool proprement dit, est un vice. Un vice, donc, est une porte ouverte à tout ce qui peut suivre. Et c'est là où on parle de risque. Hein, on parle de relations sexuelles à risque. Hein. Eh bien, quand on décide à boire de l'alcool, on prend des risques. Mon grand-père a pris des risques. J'ai rien contre mon grand-père. Hein. Je l'aimais beaucoup. Hein. Mais il a pris des risques et voilà. Il avait honte parce qu'il a gâché sa toute neuve voiture. Mais c'est ça. Donc, un jour, nous avons acheté dans un garage une voiture, hein, chez le garagiste, et quelques mois plus tard, ben, le moteur était en panne. Et le garagiste a repris la voiture. Il nous a rendu notre argent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vice caché. Et c'est ça la phrase, on dit, un vice caché. Donc, j'avais acheté cette voiture ne sachant pas que j'avais le risque de me trouver en panne avec un mauvais moteur et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il était gentil, que je n'avais pas besoin de me plaindre et tout ça. Donc, une vice cachée. Et l'alcool est comme un vice caché qui donne naissance en cachette à de nombreux enfants. C'est ça le problème. Ce n'est pas le verre même. La mer même. Mais c'est ce qui peut suivre. Donc, on va retourner dans Genèse chapitre 9. Il a bu du vin, il s'enivra, et il se découvrit au milieu de sa tente. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas d'habitude. Hein? Et trois fois, dans le texte, il dit que voilà, il était nu dans sa tente. Et il ne devait pas être comme ça. Hein? Donc, une première chose qu'on peut constater, c'est que Noé, quand il s'est enivré, eh bien, il s'est donné un comportement immoral qu'il n'avait pas habituellement. Ça va tout le monde? Vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas normal. Hein? Et il y a seconde chose qu'on peut constater, c'est que les parents ne devraient pas se découvrir devant leurs enfants. Hein? Et donc, on a entendu dire qu'en France, ça se pratique pas mal. Hein? Et en lisant des choses concernant la sexualité et l'abus de sexualité et tout ça, eh bien, les parents qui s'exposent à leurs enfants, ils commettent un abus sexuel envers les enfants. Et c'est répréhensible. Hein? Donc, à faire attention dans ces questions-là. Dans le verset 24, lorsque Noé s'est réveillé de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet. Ça, c'est pas dans l'hébreu, excusez-moi. Donc, on va reviser le texte là, parce que le texte dit ce qu'il a fait son plus petit fils. Son fils plus jeune. Et quand on lit dans le verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Donc, Cham, ce n'est pas son troisième fils, mais son second fils. Et on spécifie que Cham fut le père de Canaan. Canaan, c'est celui qui a fait ça. OK? Donc, quand on parle ici, le mot cadet est une erreur. Les traducteurs n'avaient pas le droit à mettre ce mot-là. Son fils le plus jeune. Et en hébreu et en arabe et tout ça, les mots, les langues sémitiques, on dit frères, tous les mots familiers sont très larges. Donc, quand on dit un enfant, donc, par exemple, Jésus est le fils de David. Donc, vous comprenez, on peut aller très loin à travers les siècles en disant le fils de, hein, et ici, le plus petit fils de Noé à ce moment-là, c'était Canaan. Et donc, c'est Canaan qui a fait cette chose et ce n'était pas Cham. Cham, il est vrai, est entré dans la tente après que Canaan avait fait quelque chose à son grand-père. Shem est entré. Et derrière Bougain, papa est comme ça. Il a reporté ça dehors. Et les autres avaient honte de leur père. Ils sont retournés et l'ont couvert comme il fallait. Donc Shem n'était pas innocent. Shem, en fait, avait des... Donc, comme dit le commentaire, que je n'ai pas traduit en français, c'est en anglais, mais il dit, Shem, le penchant licencieux de Shem s'est reproduit dans la nature de cet acte de son fils. OK? Et donc, on ne dit pas quel était l'acte de Canaan. Qu'est-ce qu'il a fait à son grand-père? Il ne le dit pas. C'est parce que c'est ignoble. On n'a pas voulu en écrire ça pour le reste de l'humanité. Mais ce qu'il a fait a incité que Noé l'a à trois fois maudite. Et que ses descendants devraient devenir des esclaves des esclaves. Ses descendants sont des Cananéites. Cananites. D'accord? Et les Cananites, donc là c'est en français, je peux vous le dire. Les Cananites devaient être exterminés quand les Juifs sont entrés dans la Palestine. Il s'agit de punir l'inuit perversité des Cananéens et d'éviter qu'ils ne contaminent moralement le peuple de Dieu. Les Cananéens idolâtres se livraient à des vices infâmes, des cultes abominables, et surpasser d'autres nations dans la pratique des sacrifices humains. Il condamna, donc Dieu, condamna les nations cananéennes à l'extermination pour les châtier de leur perversité, et pour les empêcher de séduire son peuple. À la fin du paragraphe, selon le dessein de Dieu, ce jugement équitable devait s'exercer dans l'intérêt du peuple et de l'humanité, en ne sachant pas toujours retrancher cette gangrène qui le menaçait, Israël finit par se laisser contaminer et par attirer sur lui le jugement de Dieu. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est la progression d'un mal de l'ancien monde qui est resté dans l'esprit de certains. Donc Noé qui s'est permis de s'enivrer, donc cet homme, ce prédicateur de la justice qui s'est permis à s'enivrer et de faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire, et par la suite son fils Shem qui avait la connaissance du monde avant, qui a dû avoir une certaine façon de vivre et a permis à son fils plus jeune à faire un acte ignoble au grand-père, eh bien il est maudit. Et c'est ses descendants qui vont, en fait, continuer à reproduire et à empirer cet style de vie, mode de vie, jusqu'au point où Dieu dit, il faut exterminer ce peuple, comme il avait déjà exterminé le monde auparavant. Alors, on pourrait se demander si Noé ne s'était pas enivré, peut-être Canaan n'aurait pas fait cet acte ignoble et n'aurait pas été maudit. Peut-être. Mais le point que je veux souligner, que je veux apporter, c'est que l'alcool met à risque la famille. La famille, donc, premièrement, la personne, hein? Parce que quand on boit l'alcool, la personne déforme déjà sa perception de la réalité, dans le sens qu'il est moins sensible. L'alcool, dans les termes médicaux, est un dépressif, un sédatif, donc ça donne la dépression. Ça diminue la résistance morale. Et on connaît tous comment les hommes aiment bien que les dames boivent afin de pouvoir faire quelque chose par la suite. Hein, si on peut faire en sorte que la dame boit un peu trop, eh bien, elle ne va pas résister. Hein. Et donc, aussi, comme on a vu dans l'exemple, Noé même a commis donc cette indiscrétion morale qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas bu. Mais après, l'alcool a une influence sur le reste de la famille. Et donc, j'ai apporté quelques exemples là d'extraits concernant l'alcool tiré de l'Internet. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, si ça vous intéresse, il y a une copie par famille ou par personne, etc. Mais quand il y a certaines familles, prenez un exemplaire. Mais globalement, donc, alcool ouvre la porte à l'abus de la femme. C'est souvent la femme qui est battue par le mari ou violée par son mari quand il est ivre. Mais ce n'est pas toujours la femme, hein, parce que l'alcool ouvre la porte pour l'abus des enfants. Et des fois, c'est l'enfant qui est violé par le père qui est ivre. Donc, l'inceste. D'ailleurs, dans les informations d'Internet, il dit que 70% des cas, jusqu'à 70% des cas d'inceste ont une relation avec l'alcool. C'est quelque chose, hein? Des problèmes financiers. Le texte biblique en parlait de ça aussi. Hein? Que à la fin, une personne pourrait arriver jusqu'à la pauvreté à travers cette penchant qui commence avec un verre, mais ça peut aller où? Le beau-frère de cet ami à Lyon qui a divorcé, etc., qui a gâché toute sa vie, n'est-ce pas? Aussi, il dit dans les documents, il y a outre les sanctions pénales qu'on va subir, et par exemple, évidemment, il y a des questions de prison et tout ça, mais même les assurances ne vont pas couvrir vos fautes si vous êtes sous l'influence alcool et ils vont augmenter vos mensualités. Hein? Donc, c'est misérable tout ça. Donc, il y a la question de l'inceste, il y a le problème financier, il y a les handicapés. Je suis allé hier avec M. Giambi à Paris voir l'exposition de voitures et on était face à un homme qui était évidemment dans un accident. Et par la suite, il nous a dit, en fait, il ne pouvait pas même nous voir parce qu'il était dans un accident de moto. Et donc, il était abîmé et c'est son fils qui le dirigeait. Mais pour dire, là, ce n'était pas une question d'alcool, mais combien de monde sont handicapés suite à un accident de voiture? Donc, dans cet accident, il y a question d'alcool. Hein? Beaucoup de monde. J'ai même vu dans l'Orne une fois une exposition que à ce sujet-là. Il y a aussi des troubles de comportement chez les enfants. Dans les familles où le père ou la mère, ou le père et la mère, boivent l'alcool, trop d'alcool. Et ils disent dans la littérature que je vous propose qu'il y a de retard mental chez les nouveau-nés à cause de la consommation d'alcool chez la mère. C'est pas toujours comme ça, heureusement. Mais la question, c'est risque. On met à risque nos enfants, notre femme. Et comme on prend l'exemple du texte biblique, eh bien, ce n'est pas uniquement mes enfants, mais c'est les enfants de mes enfants. Et ça peut aller encore à mes arrières, un petit enfant, et encore plus loin, selon quel est le péché qui se propage. Donc, dans les cas de Canaan, ça allait presque 1000 ans, ça se propageait. Hein? Jusqu'à ce que Dieu voulait que ça soit exterminé. Donc, je pense que j'ai plus ou moins entamé ce sujet. J'ai aussi un livret. Peut-être pas fini, mais que j'ai écrit à propos de la Bible et l'alcool. Et il y a donc, je peux vous faire une photocopie si ça vous intéresse. C'est déjà, j'ai déjà récemment amélioré ça. J'ai mis des questions et quelques textes meilleurs. Et c'est peut-être encore à travailler. Je l'ai écrit en français, j'ai refait en anglais. Et en anglais, ils vont éditer ça aux États-Unis. Et c'est déjà utilisé dans un centre de désintoxication. Intoxication, donc ça c'est le dépoisonnement, n'est-ce pas? Et il y a, donc c'est, ça concerne la Bible et ce que la Bible enseigne à ce sujet-là. Mais si ça vous intéresse, je vous fais une photocopie. Là, on a travaillé sur le problème de Noé. Et Noé, comme il a influencé, que le texte biblique nous dit, il a influencé sa famille dans un mauvais sens parce qu'il s'est enivré. Donc, la toxomanie, l'intoxication perpétuelle par l'alcool, donc d'être un ivrogne, ça c'est une chose. De boire trop ponctuellement, c'est une autre chose. Il y a deux façons d'être ivre, n'est-ce pas? Hein? Et donc, c'est un sujet qui est très vaste. Et je ne peux pas aborder tout ça, je ne veux même pas. Donc, on peut traiter ça en privé ou dans une autre circonstance, mais ça serait dommage si un de nous soit dans un accident mortel, que le voisin soit tué parce que j'ai raté le carrefour et je suis entré dans sa maison, ça arrive aussi, hein. Je répète que la question des drogues se traite aussi avec la question d'alcool. Et donc, nous les chrétiens doivent être des exemples dans la société et non pas des problèmes. D'accord? Donc, aborder ce sujet dans la prière, à traiter ça en famille, je ne vous donne pas une position. Je vous présente des informations à partir de l'exemple. Mauvais exemple de cet homme prédicateur de la justice, hein? Noé n'était pas un homme méchant. C'était une espèce de pasteur, si vous voulez. Eh bien, il n'était pas toujours bien, hein? Ah, moi non plus. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole encore. Et ce sujet, c'est délicat, c'est personnel. Les décisions sont à prendre sur le niveau personnel. Et pourtant, nous ne voulons jamais que nos frères et sœurs soient enivrés, ou qu'ils fassent le mal à leurs enfants, ou qu'ils fassent des bêtises et des indiscrétions morales. Seigneur, que tu agis dans nos esprits pour que nous puissions être, comme tu as dit, remplis du Saint-Esprit et non pas sous l'influence d'alcool. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.